Je suis ravi d'être là, de parler littérature avec vous autour du rapport affectif au lieu. Du coup, je ne vais pas dire grand-chose avant de donner la parole tout de suite à nos trois intervenants. Tout simplement, je souhaitais dire que bon, il y a aussi la lecture ce soir, lecture de texte choisie par moi et puis lue par Jean-Pierre Davernant ce soir dans le grenier. Donc, je pense qu'on aura l'occasion aussi d'approfondir un certain nombre de questions de cette séance pendant la discussion littéraire plus tard ce soir dans un autre contexte. Voilà, donc on aura des interventions de 20 minutes suivies tout de suite par des questions et puis une séance de discussion générale à la fin. Bon, et tout simplement pour dire quelques mots autour de ce panel avant de donner tout de suite la parole à Dany, je voulais dire que la littérature ne fait pas que représenter des lieux, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'un rapport de mimésis lorsqu'on parle de ces questions, mais la littérature constitue elle aussi un lieu affectif. Donc, je pense qu'on va s'interroger sur le fait que ces espaces de l'imaginaire constituent des lieux de l'affect, de l'émotion, qui ont aussi, d'une certaine façon, droit à une certaine autonomie. Autonomie sensorielle, symbolique, etc. Donc ces lieux imaginaires, du fait littéraire, sont des lieux aussi doués d'émotions, traversés par des affects. Et l'émotion, l'affect d'ailleurs, constituent aussi des lieux mentaux de l'esprit. Donc je pense que dans ce panel, et plus tard ce soir, on va s'interroger beaucoup sur cette frontière, ce seuil difficile entre le rêve et le réel, entre ces deux côtés des lieux imaginés, imaginaires. Et c'est une frontière, bien sûr, très très difficile à cerner et qui, d'habitude, ne doit même pas être fixée, gagne à ne pas être fixée. Et donc, on va habiter un peu ces espaces de fluctuation, ces frontières floues entre l'imaginaire et, entre guillemets, le réel, ou les réels au pluriel. Voilà, bon, ça cadre de façon très générale un peu les territoires qu'on va aborder ensemble. Du coup, tout de suite, je suis très heureux de présenter Dany Jacob, qui est docteur en lettres françaises et francophones à l'Université technologique du Michigan. Sa recherche se centre sur le rôle de la figure du dandy dans les contextes français et européens pendant la fin de siècle et comment cette dernière se positionne dans la discussion autour de la modernité, de l'esthétique et de la masculinité à travers les théories lacaniennes sur le fétichisme. Ses autres domaines de recherche comprennent la discussion de la création d'identités culturelles ainsi que leur mobilité dans leurs espaces respectifs. Et du coup, Dany aujourd'hui va nous parler, enfin, présente un papier intitulé L'écriture affective proustienne comme ancrage affectif. Merci. Allez. Oui, merci.
Merci. Donc, oui, ma recherche, c'est pas ce que je présente, mais bon, Proust fait partie d'un projet plus ample. Donc, je suis désolé si c'est un peu assuré, parce que justement, il y a des grands concepts et j'ai que 20 minutes. Donc, on commence. Donc, parlons Madeleine, parlons Proust. Tout le monde connaît un peu la Madeleine de Proust. Oui, le côté affectif, on connaît, on peut s'imaginer, on sait à quoi ça ressemble, mais qu'est-ce que la Madeleine a à voir avec le lieu? Donc, j'espère un peu vous surprendre avec ça et on verra bien où ça passe. Donc, au-delà de simplement représenter donc, le flux de mémoire involontaire ou autre à base d'une expérience sensorielle et affective, cette petite pâtisserie reflète plus profondément le projet proustien dans son ensemble, à savoir cette fameuse recherche du temps perdu. Jean-Pierre Richard voit dans la Madeleine et dans la gelée, par exemple, une métaphore de la recherche dans le sens que toutes ces deux structures, poreuses pour la Madeleine, engorgées par un fluide, solide, transparent, avec des traces de viande pour la gelée, montre simultanément une construction creuse qui peut être complétée. Pour la Madeleine, d'une part, le T représente les flots de la mémoire qui vont gonfler les cristallisations de la mémoire pour en donner un effet affectif. La gelée, de l'autre côté, illustre cet espace figé dans lequel flottent les bouts de souvenirs comme une constellation affective. Avec cette lecture, nous venons à notre propre conclusion que la Madeleine est l'encre jetée dans ces flots de souvenirs et de mémoires qui sont aussi allusifs qu'ils sont remarquablement acharnés. Mordre dans cette gourmandise devient synonyme d'un retour au passé, un hashtag throwback Thursday, pour pour les numériques. Une capsule à remonter le temps et une porte qui donnerait accès à une nostalgie lointaine, presque oubliée. Ce n'est pas un phénomène innovant de nos jours, avec le trend avec Instagram et autres. On pourrait se perdre facilement dans le mondain de cette activité. Un moment clé dans notre héritage culturel contemporain, non pas parce qu'il n'est pas identifiable, mais justement parce que notre expérience affective a changé de nos jours. Aujourd'hui, en gomme, cet aspect esthétique que Proust confectionne autour de ce bref instant où le temps, le lieu et l'espace cessent de continuer et où ils convergent en une superposition poétique de la mémoire pour avoir maintenant un effet dilué, presque gratuit, du souvenir affectif. Le rapport esthétique retrouve un peu de ses racines dans le documentaire récent d'Agnès Fardas et de l'artiste JR. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion donc, de voir le documentaire Visage Village. Donc une biographie de la cinéaste et en soi une recherche du temps perdu, la recherche de son temps perdu et celui de la France. Le génie de JR est de réimbiber le lieu, souvent sous la forme d'une construction humaine et dont la mémoire collective a été tranchée, en le transformant, en le ravivant de son pouvoir affectif à travers une image surdimensionnelle et éphémère, comme la Madeleine Proustienne. Alors que le travail esthétique de JR est sensationnel, visuellement parlant, et que la narration et le talent de Vardas font du documentaire un portrait nostalgique de cette mémoire collective, dont l'attachement avec le patrimoine est perdu, plutôt a été enseveli, et qui perd son ancrage affectif dans le torrent sensoriel, nous pouvons retrouver dans Visage Village le projet proustien, plus précisément son obsession esthétique pour l'espace, la mémoire et le temps. Un siècle après la recherche, Vardas et JR tentent de mettre en image ce que Proust crée déjà avec les mots. Esthétiquement parlant, les deux projets partagent le même but, mais divergent dans leur exécution. Le récit proustien excède par un usage complexe et poétisant de l'image littéraire, tandis que Vardas et JR amalgament le texte et l'image poétique. Proust, dans ses propres termes, est innovateur dans l'écriture personnelle française. On ne va pas trop en discuter. Par contre, on reconnaît qu'aujourd'hui, donc, la recherche n'est pas réellement le premier volume littéraire qui met en scène et qui explore le flux de mémoire et les monologues intérieurs. Cet honneur vient à Édouard Dujardin et ses lauriers sont coupés de 1887. Il n'empêche que la Madeleine proustienne reste un emblème idiomatique qui résiste à l'usure temporelle. Le génie proustien, cet accent qui le démarque de la poétique de Dujardin, et l'importance de la subjectivité du regard esthétique appuyé sur le monde environnant, mais surtout le rendu de ce regard au lecteur de la recherche. À ce but, l'auteur convertit le personnage principal en un sismographe qui retranscrit les métamorphoses et bouleversements de la société qu'il observe. Le cycle romanesque redevient donc une interrogation de la perception du monde du narrateur ainsi que de l'évolution de sa personnalité. C'est dans cette impression du temps qui va marquer la littérature française du XXe siècle, où l'art joue un rôle fondamental, agissant comme un médium entre le narrateur et la beauté cachée du monde et la vérité profonde des êtres. Cette nouvelle donc, vision du monde est inspirée d'une préoccupation constante de l'esthétique. Dans cet effet, la peinture retient un rôle de catalyseur matriciel, où toute la conception esthétique du narrateur trouvera ses racines. Car, comme le dit Mosilo Malavovic, je cite, « L'art, inlassablement, a besoin des autres arts pour parvenir à se définir. Il réside profondément inscrite dans le projet proustien, une recherche anxieuse, obsessionnelle et névrotique qui consiste à tenter de saisir par tous les moyens l'essence esthétique. » Fin de citation. L'avant-garde de Proust réside donc dans son écriture impressionniste qui fait ressurgir une poétisation de l'objet et ou du lieu, et une préoccupation esthétique du temps, avec T capital, bien entendu. C'est à travers le personnage du peintre Elstir, dans le deuxième tome de la recherche, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, que le narrateur apprend à connaître et surtout à reconnaître son environnement sous un point de vue impressionniste, concluant en une vision kaléidoscopique. Effectivement, la pratique impressionniste demande que les peintres portent alors des coups de pinceau presse sur la toile afin de traduire la poursuite de la vitalité du moment singulier, ancré dans l'instant du perçu et celui de la création. Technique que nous retrouvons dans la sinuosité de la phrase proustienne, cet enchaînement de subordonnées traduisent la composition en mots du narrateur dans l'effort de nous rendre un tableau mental en temps réel. L'art communique non plus le monde extérieur, mais ce qui reste d'habitude à jamais inconnu, notre vraie vie, la réalité telle que nous l'avons sentie. Citation dans Le Temps retrouvé. La vraie mémoire, qui conserve le passé vivant, ou les souvenirs, des impressions sensuelles, a besoin d'une étincelle poétique pour revivre, car selon Proust, je cite, « il n'y a de poésie que dans des choses que l'on sent encore ». Fin de citation. Par conséquent, ce sentiment esthétique, résultat d'une matière esthétique qui réside dans ce qu'un auteur a senti, nourrit la mémoire involontaire, clarifiant ainsi la citation de la recherche qui dit « les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus ». Nous comprenons ici, donc par paradis, tout ancrage affectif que le narrateur et l'auteur, bien entendu, identifient dans la construction narrative et qui peuvent se traduire en lieu, mais surtout par les objets, comme dans la gelée, donc sont des bouées auxquelles le narrateur s'attache afin d'explorer son lien affectif. Dans ce sens-là, j'utilise donc la théorie de Michel de Certeau, qui fait la différence entre lieu et espace, un peu pour renvoyer à la discussion qu'on a eue ce matin. Donc un lieu, je cite directement de Certeau, est un lieu, quoi qu'il soit, selon lequel les éléments sont distribués dans des rapports de coexistence. Il y a espace dès qu'on prend en considération des vecteurs de direction, des quantités de vitesse et la variable de temps. L'espace est un croisement de mobiles. En somme, l'espace est un lieu pratiqué. C'est ça vraiment qui... l'idée qui est derrière ça. Donc, le lieu devient espace une fois qu'il est meublé de mouvement par une direction ou encore une temporalité. L'idée, c'est donc que la Madeleine, comme objet, devient lieu une fois qu'on l'imbibe de thé, mais aussi du temps. Donc, ça passe de objet à lieu à espace. Le recoupement entre les plans spatio-temporels, tout comme l'énonciation affective à la première personne, offre au lecteur une reconstruction de la mémoire dans l'espace de l'énonciation. Ce que Edward Sullivan parlait de third space, Lefebvre aussi parle de ce troisième espace, donc l'espace vécu. L'objet proustien est un lieu, donc sous sa forme cristallisée, qui devient espace une fois submergé dans le flux temporel. Ainsi, cet objet extérieur, par l'impression qu'il nous donne, vaut surtout comme indice que la sensation poétique est ancrée dans toute réalité. Cette sensation véritable est causée par le sentiment d'enivrement véhiculé par les mémoires involontaires. Comme celle-ci nous fait revivre un moment perdu dans la temporalité, cela indique qu'il s'agit d'une vérité idéale, immuable. Inévitablement, la subjectivité dans le récit est bien la seule méthode pour transmettre cette expérience au lecteur. Car toute personne qui décrit a forcément un point de vue particulier sur ce qu'il décrit. Grâce à la focalisation interne, le lecteur suit le flux de pensée du narrateur, adopte son point de vue, se laisse guider dans la construction descriptive de l'impression. Matisique et mimétique, cette description est fondamentale au cheminement de la pensée du narrateur, à comprendre comment ce dernier établit le système de rapport avec l'objet décrit. La structure donne l'impression au lecteur de non seulement connaître ses personnages, ses objets et ses paysages, mais aussi de les sentir. Avec la méthodologie impressionniste et la philosophie ontologique de Proust, qui vont main en main, la récréation de l'objet sous le regard se fait de la même manière que les perceptions modifient la réalité. L'accent est mis sur la traducibilité d'un élément vers l'autre, qu'il s'agit de la sensualité, c'est-à-dire la réception de l'objet par les sens, ou de l'affectif dans l'objet, sur plusieurs plans de narration. Afin de contourner cette difficulté, la narration proustienne se produit sur trois niveaux. Nous avons le souvenir affectif dans le passé, nous avons l'acte d'écriture dans le présent de la narration, affectif à son tour, bien entendu, et finalement la réanimation de ce souvenir dans le temps présent de la lecture à travers l'affect. Afin d'atteindre cet objectif, de propager cette vérité sensuelle proustienne, l'auteur semble avoir préféré donc un narrateur entonnoir, c'est-à-dire le jeune narrateur agit comme un récepteur à ses impressions sensorielles et les emmagasine une à une. Il sépare alors littéralement le bon grain de l'ivraie, sélectionnant dans son fort intérieur le lot approprié. Il fractionne l'impression au plus près de son essence et la reconstruit ensuite à l'aide de l'étincelle poétique. La phrase proustienne retrace alors la procédure récréatrice de l'impression selon son orateur, le corps de réception. Le narrateur procède comme une caisse de résonance, un terme que je reprends de Jackson. Les impressions laissées sur le narrateur sont amplifiées, transformées et diffusées. La première personne du singulier, un choix non pas anodin, incarne le véhicule le plus approprié dans le but de jeter l'encre à l'eau, littéralement, En passant par le filtre de la subjectivité, le lecteur devient un avec le narrateur, enjambant la brèche temporelle qui existe entre le temps de narration et la temporalité de lecture. Le discours descriptif a des enjeux spécifiques, surtout celui de ne pas perdre son lecteur, que ce soit le je écrivain ou le lecteur en temps réel. Dans le cas du récit proustien, nous avons affaire à un lecteur qui, accompagné du narrateur, plonge dans l'inconscient de celui-ci, qui est rendu sensible à certains éléments qui évoquent au narrateur des mouvements poétiques. Cette subjectivité affective brouille les distances temporelles, tout comme les distances spatiales. Il ne faut pas oublier que ces souvenirs sont ancrés dans les objets qui planent dans un espace affectif. Certes, le lecteur est guidé par son narrateur de bouée en bouée, par l'aspectualisation, mais le cheminement de ces derniers restructure la perception affective de l'espace social. En tout bout de champ, cette vision kaléidoscopique à travers laquelle le narrateur, et donc par conséquent le lecteur, s'approprie et se réapproprie les espaces affectifs, est annoncée dès le premier tome de la recherche, du côté de chez Swann. Là, nous avons donc le projet esthétique qui est annoncé par le jeu d'ensemble de la lumière sur la surface de la chambre de Marcel, à travers la lanterne magique, pour ceux qui connaissent l'extrait. Ici, donc, le lieu physique, c'est-à-dire la chambre, balise et ouvre ce souvenir d'enfance où l'histoire, c'est-à-dire Geneviève de Brabant et son chevalier Golo, envahissent, et je cite ici directement de la recherche, le point fixe et douloureux des préoccupations du narrateur. Avec du recul, la recherche, comme la Madeleine et comme la lanterne magique du narrateur, agit comme un catalyseur et transforme le lieu en espace. Le forge et le transforme affectueusement dans la mémoire collective du lecteur, mais aussi dans la mémoire littéraire. Catherine Formulag précise que, je cite, « Il faut que la réalité représentée appartienne à un univers qui n'est pas l'univers actuel de l'émetteur par l'évocation d'un passé, d'un rêve, d'un fantasme ou de toute réalité imaginaire. » Fin de citation. La reconstruction affective de Proust du temps perdu se passe sans hésitation par le biais de l'art qui permet une recréation de l'objet, du lieu et du monde. Or, la réalité physique perd son emprise sur le monde dans le continuum espace-temps. La conception de la vérité esthétique ne coïncide plus avec le perçu et demande au narrateur de créer une balise plus appropriée pour résister à cet affaiblissement. À travers le narrateur entonnoir, toutes les impressions et les images se cumulent dans son fort intérieur et forment la motte d'argile avec laquelle le narrateur créateur va former le monde, son œuvre d'art. Agissant comme un corps de résonance, le « je » reproduit les sensations et les impressions qu'il reçoit. Comme pour l'étude des impressionnistes, le sujet n'est pas au centre, mais seulement ce qu'il y a autour de l'objet d'étude compte. Cette liberté de ne plus devoir être attachée concrètement à l'objet donne plus de possibilités à la rêverie, au fantasme, à l'affectif. L'objet devient prétexte de ce lien affectif. Le narrateur enrichit la subjectivité, entre autres, par l'usage de métaphores, établissement en lien avec son savoir et l'appréciation primaire. Le système des rapports devient complexe, personnel, et le souci des détails font intimement partie de la construction de l'œuvre littéraire. Cette technique est inspirée par le peintre Elstir, comme déjà dit, qui apprend au narrateur à voir le monde avec d'autres yeux, à partir d'une nouvelle philosophie esthétique et ontologique, voir comme on le sent. Dans cette optique, tous les sens sont impliqués dans un réseau dense et divers. J'arrive à la conclusion. Avec une petite citation de Jackson, « La mémoire est un excellent moyen pour retrouver la beauté d'un instant parce que naturellement, elle ne rapporte et ne conserve que ce qui est poétique. » Fin de citation. Donc, articule Elizabeth Jackson. Pour Proust, une vraie œuvre est celle qui sait traduire la sensibilité mais aussi une vision complète du monde avec une précaution particulière pour l'esthétique. Cette vision du monde est articulée par le médium de l'art. Dans ce cas-ci, nous l'avons vu, il s'agit de l'art pictural. L'impression donc, est retenue comme une photographie de l'instant, elle est aspectualisée en un texte continu, qui sera relégué par l'art littéraire. Cette construction à ses propres lois est un fil philosophique particulier. Proust reprend la tradition impressionniste dans son œuvre. Il est, je cite, il assimile romancier, poète et philosophe, le travail de chacun étant de traduire la réalité extérieure, bien entendu, chacun à sa façon. Fin de citation. La recherche du temps perdu reprend l'idéal de l'œuvre d'art totale selon Wagner. Tout comme le compositeur allemand Proust désire fixer l'unité de la vie dans son œuvre, il y associe à travers trois représentants artistiques Vinteuil, Bergotte et Elstir, les trois disciplines esthétiques dans son ouvrage littéraire. Cette combinaison des disciplines agit comme une confrontation entre le monde imaginé et le monde vécu, un monde qui est prolongé encore dans l'art. Le narrateur se voit comme la figure orphique, le lien entre le sublime et la réalité. Je cite Le Temps perdu de nouveau. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. Fin de citation. Cette esthétisation est le seul remède à l'influence du temps sur le monde, car effectivement, il n'y a aucune emprise sur l'art. Parfait, l'art est immuable et éternel. Ses valeurs seront toujours reconnues et les artistes lui rendent toujours hommage. Marcel Proust en fait de même en cristallisant des perles affectives, des petites miettes de madeleine, des bouts de viande, dans un entrecroisement du sublime immuable avec une subjectivité esthétique. Car après tout, et je finis sur cette belle citation des jeunes filles en fleurs, il y a tout un monde dans une proposition, dans une nuance. Merci.
Merci beaucoup, Dani. Je vais en profiter pour poser une première question avant de donner la parole à la salle. Tu as eu cette très belle phrase que la Madeleine devient lieu ici. Et en t'écoutant, je me disais que je pense que c'est très juste. Et en même temps, ce qui est curieux, c'est qu'en devenant lieu, c'est comme si la Madeleine effaçait le lieu véritable où allait lieu ce moment sensoriel qui allait déclencher le voyage intérieur subjectif. Parce que quand on pense à cette scène, on se rend compte que le petit Marcel nous dit très peu, enfin, ou le grand Marcel, narrateur, grande question, nous dit très peu du contexte d'appréhension, du contexte sensoriel. Donc, quelle pièce se situe-t-il dans quel environnement, quelles sont les spécificités de ce lieu qui cette chose qui va déclencher tout le voyage subjectif. Et du coup, si la Madeleine devient lieu, c'est comme si presque elle effaçait les lieux environnants.
Oui, c'est ça, en fait. L'idée, c'est que l'objet devient donc son propre lieu géographique, non pas dans le monde réel, mais dans son monde donc personnel, où donc la géographie en fait partie, certes, parce qu'il en parle beaucoup, de d'autres endroits. Donc à Combray, etc. Mais oui, donc ces objets, donc ces perles esthétiques deviennent donc en fait c'est la constellation proustienne. Donc on parle souvent de Proust avec la cathédrale et toutes ces descriptions, mais pour l'instant je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui parlait des objets comme faisant partie de cette constellation affective et géographique, on va dire dans ce sens-là, comme ancrage.
Oui, c'est vrai qu'il y a, des choses, pas mal de choses sur les objets chez Proust, mais là, ce qui m'intrigue, c'est l'idée aussi qu'il y a une certaine violence même dans le fait que l'objet remplace, supplante, vraiment commence à occuper presque intégralement le lieu où cette expérience sensorielle puissante a lieu, littéralement. Question, tout de suite.
Oui. J'avais une question sur le statut de la. On a parlé dans ta composition de la sonate de Vinteuil, qui est une figure qu'on retrouve en fait de façon récurrente. Et tu as dit que l'art est un moyen chez Proust de lutter contre le vieillissement du monde par l'esthétisation, c'est ça?
Oui.
Or, cette sonate, j'ai l'impression, après je ne suis pas spécialiste de Proust du tout, qu'au contraire, elle témoigne à la fois d'une évolution dans le rapport affectif du narrateur vis-à-vis de ce morceau. Il y a la découverte, et puis le réentend, et puis ensuite, tu fais partie du décor, mais voilà, oui. c'est moins important. Et j'ai souvenir chez les Guermantes, et le pianiste joue cette sonate, alors il est transporté, et puis tout le monde félicite, tout le monde se congratule. Et le pianiste en profite pour jouer Chopin, et donc il signale que Chopin n'est plus du tout à la mode, et que l'effet esthétique est passé, l'affectif est moins important. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas des nuances vis-à-vis de la musique ou...
Oui, oui et non. Dans ma vision de Proust, on va dire, c'est ça aussi. Donc, je suis pas proustien pur et dur. Mon interprétation, donc, de cet incident, donc avec Val, le morceau de musique de Vinteuil, c'est surtout que c'est la nostalgie. C'est que, comme avec Chopin, donc voilà, Chopin était à la mode, maintenant il n'est plus à la mode. De toute façon, toute la recherche a ce ton d'amertume, donc cette atmosphère, si on utilisait les termes de ce matin. Je crois que l'idée, c'est ça, c'est simplement que chaque fois que la pièce de 20 heures ressurgit, il y a eu le souvenir qui revient. Et donc, l'appréciation du moment même, donc, sur l'aspect d'actualisation du récit, le souvenir perd. De son affect, dans ce sens-là, de sa préciosité, ton affect, on va dire, mais se transforme en affect différent. Donc on va de pure joie ou à une nostalgie, à la tristesse. L'idée, c'est qu'il y a une succession. Donc, comme tout, dans Proust, tout est cyclique, même avec la Madeleine. Donc, même là, c'est le premier récit de la Madeleine qu'on a, ça va pas être le dernier. Donc, je suis sûr que le narrateur a eu d'autres Madeleines depuis, etc. Et le souvenir va changer. C'est que nous avons une superposition, donc un souvenir qui, une fois qu'il est rejoué, perd de sa vivacité. Et je crois que c'est ça. Et puis avec moins de vivacité, ben, donc, l'affect se transforme, mute en autre chose. Mais l'art, la beauté immuable est toujours là. On a toujours encore cette appréciation pour, on va dire oui, c'est nostalgique, c'était beau à l'époque, maintenant c'est moyen. Mais il y a toujours encore le respect pour cette pièce artistique. Et donc dans ce sens-là, justement, l'art est immuable parce que ça reste un modèle incontournable. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Jaslam, merci Dani. Je voulais juste te poser une question à propos de la relation entre la Madeleine et la tante Léonie. Comme elle est vraiment métonymique, oui. Que la tante Léonie est un objet qu'il a incorporé en quelque sorte, et que la géographie de Combray s'organise autour de la personne de la tante Léonie et aussi de Françoise, d'autres personnes, oui. Au fur et à mesure. Mais c'est vraiment le fait qu'il ait incorporé cette autre personne qui organise l'espace autour de lui, et c'est que laisse en quelque sorte l'espace de son objet incorporé qui remplace cet espace dans lequel il vit réellement, vraiment, quelque chose comme ça.
Et beaucoup à dire sur Proust, c'est vrai. Moi, j'ai simplifié l'affaire en utilisant les gros objets pour dire, mais c'est vrai, mais comme j'ai dit, ça fait partie d'une constellation. Je crois qu'il faudrait analyser plus en détail. La façon dont je vois l'affaire, c'est simplement que c'est l'affectif, en fait, qui, donc, comme une mer, donc il y a les flots, donc ça passe d'un élément à un autre. C'est comme ça que je le verrais, en tout cas. C'est, ben, donc, il y a la Madeleine, il y a Léonie, il y a Combray, il y a les filles en fleurs, je veux dire, il y a Bertine, il y a les Guermantes, il y a les Swann, donc il y a plein d'éléments qui vont avec, et je crois que je vois plutôt ça en cyclique ou en vague. Donc, on passe de l'objet à une personne, à une géographie, tout devient, en fait, ça, tout devient purement essence esthétique, si je peux être très réductif dans ce sens-là. Et que peut prendre donc forme, n'importe quelle forme, tant qu'elle est modelée par le narrateur, et puis donc après repris par l'écrivain. Et donc il reste en continu après pour les lecteurs. Je ne sais pas si ça a répondu à la question, mais...
Je vais vous commenter d'une façon extrêmement personnelle, si vous voulez, excusez-moi. Mais je suis un peu déstabilisée par ce que vous avez dit, parce que justement par rapport, je donne cette image-là, c'est-à-dire cette image de mon mari, du peintre Maurice Mathieu, mon mari, et qui était un lecteur de Proust absolument dévorant, qui a dévoré Proust plusieurs fois. Et finalement, je pense qu'il était absolument contre cette idée d'essence esthétique. C'est-à-dire que Alors, je suis complètement déstabilisée parce que finalement, y compris dans sa peinture et dans la façon comme vous avez fait le rapprochement entre Proust et la peinture, et que moi, personnellement, je vois qu'il a été vraiment, autrement dit, ce que vous avez dit sur la chambre, c'est-à-dire sur... Il a été au contraire... alors, je ne sais pas ce qu'il a tiré d'une vision du monde de Proust, puisque je pense qu'il a été probablement très... Il aimait Proust, il est linéaire, et donc il a fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il a voulu toujours peindre ce qui n'était pas esthétique, c'est-à-dire ce qui justement était la chambre et non pas l'effacement de... Et donc, par exemple, tout ce qu'il a peint sur la banalité du massacre, sur etc. C'est-à-dire, c'était toujours, et même sur, par exemple, c'est un paysage d'ici, les bouchons, qu'il a associé aux soldats, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il a toujours lutté contre justement. Alors du coup, c'est cette essence esthétique, au fond, est-ce que c'est votre interprétation, votre vision du rapport ou est-ce que c'était le moment, c'est-à-dire est-ce que c'était lié au fait que Proust a écrit au moment de ce peintre et de l'impressionnisme, etc., et que s'il avait écrit à un autre moment, celui finalement des crises, des guerres, etc., il aurait peut-être écrit... enfin, je ne sais pas. Je vous pose une question parce que je suis un peu bouleversée par ce que vous avez dit, comme si, effectivement, l'écriture, comme je reprends, l'écriture était un effacement du réel, alors que précisément, je pense que dans la création, si vous voulez, il y a cette volonté, au contraire, de le toucher, et non pas de toucher la mémoire, ni le souvenir, etc., mais de toucher, au fond, le futur, et de toucher ce qui peut changer, ce qui... Vous voyez, c'est ça qui me trouble complètement. Voilà, excusez-moi.
Non, pas de souci. Merci pour partager ça avec moi. L'idée de donc, tout l'argument de donc, l'essence esthétique vient de lecture, donc de recherche, d'autorité d'autres auteurs. Donc c'est pas moi qui ai inventé cette idée de Proust et l'essence esthétique. Donc j'ai repris ça parce que plusieurs Proustiens bien établis disent que c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut penser. Moi, je n'ai pas vu ça comme ça. J'ai tout de suite associé avec le mouvement impressionniste. Ça marchait très très bien. Je me dis, c'est un peu ça, étant artiste moi-même, je me dis oui, c'est un peu l'idée de l'aérer, simplement de libérer l'objet de sa forme physique et simplement de pouvoir explorer plus. C'est vrai que comme la peinture évolue, les choses évoluent, simplement que voilà, à l'époque, quand Proust a écrit, c'était un peu l'impressionnisme, c'était vraiment l'art qui était libéré. C'est comme ça que je l'ai compris, et quand je le lis, c'est ça, surtout avec Elstir, le passage où justement l'atelier d'Elstir est considéré comme un laboratoire du monde. Pour moi, c'était, j'ai réalisé ce que j'interprète moi comme le projet proustien, c'est simplement voilà, de recréer.
Pourriez-vous passer de l'essence esthétique maintenant, peut-être ? Est-ce que vous pourriez vous en passer ?
Pour moi, elle est partout, l'essence esthétique. C'est simplement c'est une question de savoir où elle est et de la trouver.
C'est deux visions de Proust très différentes, et ce qui est intéressant aussi dans votre question, c'est que ça pose la question de son rapport à l'histoire littéraire et notamment le réalisme et le naturalisme du 19e siècle. Et surtout quand on pose cette question, Proust et le réel, la prochaine question c'est qu'est-ce que le réel ? Et du coup, s'il s'agit de comprendre le rapport entre l'écriture proustienne et la représentation du réel, s'agit-il d'un réel subjectif, d'un réel sensoriel? Est-ce qu'on associe le réel à des structures extériorisées, des phénomènes? Et donc là, on rentre dans un terrain phénoménologique. Donc je pense que la question, elle est vraiment très intéressante, mais si je pense qu'on peut poser peut-être en d'autres termes, peut-être pas est-ce que Proust s'éloigne du réel, mais d'un réel. Enfin, quelle serait l'articulation de cet espace?
littérature, j'ai juste lu, et je ne comprends justement pas du tout cette idée d'un universel esthétique. Par exemple, je pense à un passage qui est peut-être un parallèle de celui de la Madeleine, où Proust décrit l'odeur de pétrole des automobiles comme étant lui évoquant la campagne. Et en plus, il associe ce même paradoxe à l'idée de la naphtaline et du vétiver comme étant, qu'il décrit comme des odeurs négatives que lui considère positivement. Et aujourd'hui, quand je fais sentir du vétiver à mes étudiants, pour eux, c'est une odeur positive. Donc, ça nous renvoie à nouveau à qu'est-ce que c'est qui serait universel et cette essence esthétique où serait-elle. Pour ça, je rejoins tout à fait. J'ai ressenti le même trouble que Mathieu. Il y a d'autres moments voilà, où les odeurs racontent pas la même histoire que celle de la Madeleine.
La manière dont moi je conçois donc le récit proustien, ça sûrement donc parce que j'ai travaillé surtout avec Baudelaire, donc d'un côté philosophique, c'est simplement trouver dans le mondain, dans chaque instant qu'il y a, une étincelle esthétique. Donc faire du moment quelque chose, même un geste banal devient quelque chose d'esthétique. Donc là, c'est mes recherches principales avec le dandy. Donc le geste tout à fait éphémère devient œuvre d'art qui existe et qui disparaît. Donc, bien sûr, ce serait trop facile de dire oui, ben Proust est un dandy, donc du coup, il partage cette philosophie. C'est pas à moi de le faire. Comme je disais, je suis pas expert en Proust. Je suis un grand fan, on va dire, de l'idée esthétique derrière. Et donc, moi, j'interprète ça de cette manière-là. C'est pour ça que, justement, avec l'idée de l'impressionnisme, cette philosophie de l'instant éphémère, d'essayer de captiver quelque chose qui se passe dans la seconde même de la réalisation sensorielle, et donc avec l'affectif, c'est comme ça que moi je l'interprète, on va dire. Et c'est pour ça que oui, donc ça peut changer. Quelque chose qui est négatif devient positif. Je veux dire, avec Proust, voilà, quelque chose qui était justement très positif devient nostalgique éventuellement. Tout son rapport, quand je me rappelle très très bien, quand la première fois qu'il rencontre Albertine, il n'est pas très encouragé, on va dire. C'est genre un peu garçon manqué, machin truc, et puis après, il est hyperdeusement amoureux d'Albertine. Donc il y a un changement, mais ça aussi montre que le narrateur est humain et donc il y a une évolution. Donc pour moi, c'est pour ça que ça fait partie du tout. Mais l'idée de sacraliser cet instant-là, ce moment-là, qu'il soit positif ou négatif, et qu'il y a un changement donc, dans sa subjectivité, c'est ça qui rend ce moment-là donc, esthétique et donc immuable, dans ce sens-là. C'est que même si maintenant il est positif et que dans 10 ans il sera négatif, c'est quand même toujours un moment qui vaut la peine d'être cristallisé et en faire quelque chose de plus grand, donc artistique, esthétique. Voilà, mais ça c'est ma perception donc proustienne. C'est comme ça que moi j'ai compris et selon les lectures que j'ai vues, selon mes recherches, ça fonctionne dans mon univers où Proust donc existe.
On a encore le temps pour une dernière question.
Oui. Oui, c'est vrai que je suis assez d'accord sur la figure du choc émotionnel qui apparaît. Enfin, c'est peut-être ça en fait le vrai universel dans le cadre du narrateur. Peut-être moins dans l'esthétique que vraiment dans le choc émotionnel. Quand il va voir la Berma, par exemple, il l'a tellement fantasmé, il va au théâtre, il est hyper déçu, il la trouve nulle, mais il y a de l'émotion. Et à partir de cette première émotion qu'il ressent, qui est très forte, qu'elle soit positive ou très négative, ensuite il fait des variations après, quand ça revient à sa mémoire ou quand les circonstances font qu'il la retrouve dans son univers. Et du coup, c'est peut-être là-dessus, en fait, que peut-être plus, enfin, je sais pas, peut-être plus sur l'émotion que, enfin, de façon globale, que sur juste le choc esthétique ou. Voilà. C'est pas vraiment une question, mais.
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est.
Et pour, pour creuser un peu dans ce sens, dans l'idée des cycles et des fluctuations, c'est vrai que je me disais que lorsque tu parlais, Dany, du fait que ce processus narratif transforme le lieu en espace, Là, la seule chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, et là, ça rejoint la séance du matin, c'est que cette transformation, elle est bidirectionnelle, multidirectionnelle, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à chaque moment du récit, même si on prend cette définition de Sartre ou d'autres de ce matin, les lieux se transforment en espaces et les espaces se transforment en lieux à l'intérieur de la subjectivité, et parfois ce processus dialectique a lieu en même temps au sein d'un seul instant de façon paradoxale. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est jamais dans des schémas linéaires, on n'est jamais dans des devenirs qui ne se retournent pas sur eux-mêmes, mais qu'on est parfois dans des schémas tout à fait... antinomiques, mais qui ont lieu simultanément au sein du sujet. Et ça, c'est le cas pour la chambre à Balbec, c'est le cas pour le côté Guermantes, c'est-à-dire que pour tout, pour chaque lieu, c'est sûr. Tout à fait. Bon, merci beaucoup, Dani. Merci.